L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bon week-end. Merci d'être avec nous sur BFM Business pour ce nouveau numéro de l'atelier numérique. Et en ce 10 octobre 2015, c'est parti donc pour ces deux heures dédiées à l'actualité des nouvelles technologies et à l'économie numérique. Avec évidemment autour de cette table Lila Megraoua, Aurore Giraud, Nathalie Doré qui est à l'atelier US. Bonjour mesdemoiselles et mesdames.
Bonjour.
Bonjour Charlie.
Bonjour François.
Oui, c'est vrai, aujourd'hui je suis un peu voilà, c'est Charlie, c'est drôle de dame de la high-tech. Et ça me plaît bien. Les amis, je suis très à l'aise dans ce rôle. Tout à l'heure, malgré tout, Antoine Cyr me rejoindra. Il sera là, on le retrouvera pour le crash test et pour sa sélection de gadgets aux trouvailles. Jean de Chambure aussi sera là dans un instant, puisqu'il nous fera son petit clin d'œil vu d'Asie. On parlera de drones, du marché des drones en Chine. Notre Silicon Carnet tout à l'heure avec Nathalie, on s'intéressera à Amazon qui lance Flex, c'est la livraison en fait des colis par des particuliers. C'est assez étonnant. Et puis notre focus startup tout à l'heure, notre enquête de l'atelier. En compagnie de Lina et nos invités, on parlera d'automobiles connectées. Où est-ce qu'on en est de cette voiture connectée? On verra ça tout à l'heure. Notre web stratégie, la stratégie digitale de Malakoff Médéric, notre passion selon Sanet, on va parler de lecture numérique, mais aussi de lecture papier. Et vous verrez, le numérique peut, voilà, comme ça, nous permettre de nous rencontrer parce qu'on a une passion commune qui est justement la lecture. On retrouvera aussi notre World Tour, notre French Tech Tour et puis le Crash Test d'Antoine, donc en toute fin de ce rendez-vous, de cet atelier. Soyez les bienvenus les amis, c'est parti pour l'atelier numérique sur BFM Business et on commence par l'actualité vue par toute l'équipe de l'atelier et on va commencer justement par Nathalie Doré depuis l'atelier US. Nathalie.
Oui François, alors moi je voulais vous parler d'un projet qui était dans les cartons depuis plusieurs mois mais qui est enfin sorti cette semaine. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité que vient de lancer Twitter. Alors c'est la plus importante de toute l'histoire de Twitter selon le magazine Wired.
Ah.
Ça fait un vrai effet d'annonce.
Oui.
Et il s'agit de Moments. Alors Moments, vous l'avez pas encore vu puisque pour l'instant c'est sorti qu'aux États-Unis, mais vous allez bientôt voir cette nouvelle fonctionnalité également chez vous en Europe. Alors la promesse de Moments, c'est de montrer en un coup d'œil, peu importe qui vous suivez et même si vous suivez personne d'ailleurs, ce qu'il se passe d'important sur Twitter. Alors il faut dire que Twitter cherchait à résoudre une équation depuis son entrée en bourse en 2013. Il voulait élargir son audience. Aujourd'hui, ils cantonnent quand même aux 300 millions d'utilisateurs actifs pour avoir un modèle publicitaire plus pérenne. C'est donc en cours puisque Moments devrait les aider donc à séduire une plus large audience. Donc fini les listes pour traquer des sujets, fini la course aux hashtags. Désormais, pour ceux qui le souhaitent, Twitter pourra donc avec Moments leur permettre de découvrir en mode push tout ce qui se passe d'important sur Twitter. Donc en fait c'est une fonctionnalité que vous avez sur le site et sur l'appli mobile et quand vous cliquez ou touchez sur Moments, vous voyez les sujets les plus importants qui sont les sujets en cours de discussion sur Twitter. Voilà, donc Twitter prend ainsi un virage plus média, un virage plus grand public en espérant voir ses chiffres d'utilisateurs s'envoler. C'est donc ce qu'on va suivre dans les prochains mois.
D'accord. Et ça arrive bientôt, on sait ou pas, Nathalie?
Oui. Il devrait déployer très rapidement sur les autres pays. C'est toute la beauté de ces applications et de ces plateformes qui sont uniques pour plusieurs pays.
Aurore Giraud.
Oui, moi je vais vous parler de robots. Incroyable. On n'en a pas fait beaucoup ces derniers temps. Je vais vous parler de robots et du fait qu'ils ne vont pas nous voler nos travails tout de suite, en fait.
Ah.
Tout simplement parce qu'ils ne savent pas monter un meuble IKEA. Des chercheurs de Singapour.
Moi, je suis un peu robot alors aussi. Hein.
Des chercheurs de Singapour ont en fait essayé de créer un robot capable de monter un meuble IKEA.
Oui.
Et gros problème, le robot met énormément de temps et en plus détruit les petites pièces détachées.
Ah oui.
Donc on ne peut pas s'imaginer qu'ils puissent remplacer des personnes.
Si, en plus, si vous manque une vis dans un meuble IKEA, vous êtes mort. Hein.
Ben oui.
Et voilà.
Et donc, ils ont essayé quand même de placer des espèces de capteurs sur les mains robotisées afin que le robot puisse savoir quel petit objet il tient. Et ils ont mis, je crois, 1 minute et demie pour mettre une goupille en bois. Alors, une goupille en bois, c'était cette espèce de petit morceau de bois qui vous permet d'accrocher deux grosses pièces en bois qui se met entre les deux. Et il a mis 1 minute et demie alors qu'un être humain en met en quelques secondes.
Ah ouais. Donc le robot a encore
du chemin à
parcourir. Hein.
Bah, sauf que le robot, actuellement, il peut, enfin certains robots, du moins, peuvent imprimer en 3D les pièces sans besoin de goupille en bois. Donc
oui, mais la goupille en bois, là, c'est très important.
Robot humain,
Bah, cela dit, même s'il met une minute 30 pour mettre une goupille en bois, moi ça me dérange pas. Du moment que c'est pas moi qui la mets. Bon, le meuble mettra un petit peu plus de temps à se monter. Je suis d'accord.
Vrai.
Voilà. Et peut-être qu'il sera pas monté à l'envers, comme le dit notre réalisateur, parce que parfois on a des surprises avec Ikea. Mais bon, c'est génial quand même. Lila.
Oui, je vais vous parler de trous posture. Alors, chers auditeurs, vous ne nous voyez pas, mais si vous pouviez nous voir, vous observeriez, vous constateriez qu'Aurore et Tavachi, que moi également...
Comme elle balance. C'est pas beau, là.
Et que seul François se tient correctement.
Oh là là, c'est gentil, Lila. J'ai eu chaud. Non, parce que ma mère écoute, après elle m'engueule, donc c'est pour ça.
Donc, je vais vous parler de Trou Posture, qui est un t-shirt intelligent qui se veut corset.
Ah oui.
Alors, sans baleine acier, tout le tintouin, c'est plus ou moins un corset psychologique, puisque, alors, imaginez, donc il s'agit d'un t-shirt en lycra, sans manches.
D'accord.
Vous avez...
À Marcel, donc.
Exactement. Tout à fait, un débardeur en lycra qui possède en fait une espèce de fil qui court le long de votre colonne vertébrale.
J'imagine totalement, d'accord.
Donc c'est un fil qui est bourré évidemment de capteurs et qui est capable de capter si vous êtes...
Droit ou pas.
Droit ou pas.
Oh là 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 là. Et si on a un peu le dos voûté?
Alors, si vous avez le dos voûté...
Ça, c'est pas bien.
Il vous envoie une vibration.
C'est pas vrai.
Si. Une décharge.
Non, pas une décharge, une vibration. Alors, s'il considère, il vous envoie une vibration, si vous êtes trop penché en avant, trop avachi en avant, exactement comme je le fais, ou il vous envoie deux vibrations si vous êtes penché, si vous tenez beaucoup trop droit, donc en arrière.
Et ça, c'est pas bon.
Ça, c'est pas bon non plus.
D'accord.
Donc, couplé à votre application, vous allez être en mesure d'observer vos efforts, votre évolution.
Notre posture.
En matière de posture.
Ah oui, ça peut être pas mal ça, attendez.
Ben, c'est pas mal, après ça reste un débardeur qui coûte $150.
Ah, quand même.
Quand même.
Et puis il faut recharger le débardeur en plus.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça. Eh bien, dites-moi, il passe à la machine quand même.
Je crois, je suis pas sûre. Alors imaginez le lycra, la transpiration.
On laisse tomber. Allez, on enchaîne. Nathalie, depuis l'atelier US.
Oui, alors ici à San Francisco, ils sont plus dans le yoga et le pilates pour bien se tenir.
Ah,
je
ne
sais pas s'il y aura un marché pour ce t-shirt connecté. Alors oui, moi je voulais revenir sur quelques chiffres qui ont été communiqués ici aux États-Unis sur le e-commerce. Alors, vous savez, on suit souvent toutes ces tendances de shopping en ligne. Et au premier semestre, donc le département du commerce américain avait annoncé des chiffres records pour 2014, avec plus 15% de croissance, 300 milliards d'achats en ligne. Et déjà, ils annonçaient la prédominance d'Amazon, puisque Amazon prenait quand même 30% de ce chiffre d'affaires des 300 milliards. Alors, il y a une étude qui vient de sortir, qui a été fait par Bloomreach et qui montre qu'en fait, eh bien, Amazon, avec cette position dominante sur le e-shopping, bah, prend aussi une position dominante sur le search, sur le moteur de recherche en ligne, puisqu'en fait, comme ils ont une offre très large avec la marketplace, etc., eh bien, 30% des Américains désormais vont directement rechercher sur Amazon un produit plutôt que passer par Google. Donc voilà, les usages changent et c'est une information intéressante pour toutes les personnes qui travaillent sur les sujets de e-commerce.
Très bien Nathalie, merci. Aurore, encore une petite news?
Oui, moi aussi, une petite news encore rigolote. Bon. Enfin, rigolote plus ou moins. est-ce que vous saviez que mettre fin à une amitié Facebook dans le cadre de collègues de travail pourrait être considéré bientôt comme du harcèlement?
C'est pas vrai.
Si. En Australie.
Simplement parce que je vais bloquer, enfin je dislike quelqu'un, je l'enlève de ma liste.
Vous le unfriendez.
Je le unfriend.
Oui, et ben ça peut être considéré comme un acte d'harcèlement. En tout cas, en Australie, deux collègues se sont brouillés pour des broutilles, et une des deux a décidé de unfriender son amie.
Elle était pas contente, hein.
Elle était vraiment pas contente.
Vraiment pas du tout.
Et elle s'est fait taper sur les doigts par l'équivalent des prud'hommes, la Fair Work Commission, et en lui disant que c'était quelque chose d'immature et de non raisonnable.
Ah bon?
Oui, tout à fait.
Mais là, on touche le fond quand même.
Et
non,
c'est dans le cadre en plus d'une politique anti-harcèlement qu'elle a été. Lui a tapé sur les doigts. Donc, on n'est pas quand même au point de la punir ou de demander des dédommagements. Oui. Mais elle a été remise à sa place.
Bon, est-ce qu'elle a redemandé en ami sa collègue ou pas?
L'histoire ne le dit pas.
Ah là là. En Australie, c'est un peu étonnant quand même. Oui. Hein, bon.
C'est dur.
Lila.
Mais rigole pas. Je vais vous proposer un casque connecté et capable de soigner le stress. Alors, en fait, assez rapidement, il s'agit d'un électroencéphalographe connecté qui prend la forme d'un casque.
D'accord.
Et qui va être capable en fait d'analyser plus ou moins vos EEG, donc oui, vos signaux du cerveau.
Les ondes électriques, oui. C'est
exactement.
Ça.
Mmh. Et vous proposer un programme musical en fonction. Donc ça fonctionne. On vous propose différentes séances entre 3 et 15 minutes. Et pareil, avec une appli, vous allez pouvoir suivre une cure de déstress.
Voilà.
C'est chouette, ça.
C'est pas mal.
Pas mal.
Bon,
Melomind,
si
ça marche, ça émane d'une start-up française.
D'accord.
Bon, après, le casque connecté, c'est toujours la même chose. Ça a un prix, $300.
Ah oui, ça stresse en revanche. Donc après, on a des ondes négatives. Il faut remettre le casque sur la tête. Eh bien, dites-moi. Merci, Lila.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Et place maintenant notre vue d'Asie, direction Shanghai, pour retrouver le plus chinois des Français. C'est Jean de Chambure. Mon cher Jean, bonjour.
Bonjour François.
Jean, alors aujourd'hui on va parler de drones et en fait du drone en Chine. Est-ce que le drone en Chine, c'est quelque chose de très présent?
Alors écoutez, j'en ai vu quelques-uns en me promenant, mais ça reste quand même un peu la surface des choses, parce que je ne suis pas encore promené dans chaque immense et gigantesque ville qui existe dans ce magnifique pays qui est la Chine.
Oui.
Mais en revanche, ce que je sais, ce que j'ai pu commencer à comprendre en discutant avec quelques entrepreneurs, c'est le succès formidable d'un entrepreneur justement chinois qui a créé la marque DJI. Alors la marque DJI, elle est beaucoup plus connue sous le nom de Phantom, PH Phantom. Ce sont des drones en fait qui sont en train vraiment de faire l'immense succès sur la partie bien spécifique du marché des drones, qui est le marché des drones pour les particuliers, pour le plaisir, pour le loisir. C'est ce qu'on connaît très bien en France avec Parrot. Mais il faut savoir que en fait ce marché aujourd'hui c'est encore un petit marché hein. Sur les 170 milliards que représente le marché des drones, la très très grande partie, des 70%, sont sur la défense. Mais cette petite partie du marché, le loisir, est en train vraiment de d'être
d'accord,
complètement
d'exploser en fait. Donc en fait, on achète un drone pour le faire voler, pour le plaisir, etc.
Exactement. Et alors quand on regarde un peu la vidéo de Didi, donc c'est très intéressant. Donc ils ont créé un par an, les fameux fantômes. Ils jouent évidemment sur le prix, mais pas uniquement. Donc c'est vrai que le prix, bon, ça reste cher, hein, mais c'est donc entre 1100 et 1400 euros. Ce qu'il y a d'extraordinaire surtout, c'est la qualité de la vidéo. C'est du 4K, donc c'est un traitement vidéo quand même qui est tout à fait remarquable. Et surtout le déplacement du drone, on le voit grâce au GPS, grâce au système 3D, grâce au système de relief qu'il y a extrêmement sophistiqué, grâce également au capteur qui empêche le drone en fait de se cogner. Il peut vraiment circuler dans des cavités extrêmement étroites sans se cogner. Bref, c'est un appareil de haute précision et qui fait des vidéos de très très grande qualité. Donc pour vous donner une idée de ce que ça représente, il y a deux ans, en 2013, c'était 130 millions de dollars en chiffre d'affaires. Et cette année, ils envisagent 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment, vous voyez, extrêmement conséquent. Ils ont été créés en 2006 à Schengen. Le fondateur, c'est un certain Frank Wang. Et là, ils sont valorisés aux alentours de 8 milliards de dollars après avoir levé de nouveau 75 millions de dollars. Donc c'est assez vertigineux. C'est évidemment un marché qui est en plein essor. Est-ce que ça va remplacer le train électrique, comme disait joliment l'un des fondateurs, je crois, de Parrot, on ne sait toujours pas. Mais en tout cas, ce sont des objets technologiques absolument fascinants.
Ouais. Le drone, donc, hein, qui poursuit son essor, on le voit un peu partout dans le monde et en Chine aussi. Merci beaucoup, Jean de Chambure.
De rien, François, et je vous rajoute cette petite anecdote en plus.
Ouais.
Si vous n'avez pas passé votre baccalauréat en Chine, mais pour ceux qui ont passé leur Gaokao, qui est l'équivalent du bac en Chine, pour 9 millions de personnes, eh bien, ils ont eu l'honneur d'être surveillés par un drone pour ne pas tricher, pour ne pas prendre des informations avec leur smartphone.
Ah, d'accord, ouais. Ah, tiens, c'est malin. Cela dit, il fallait simplement attendre que le drone n'ait plus de batterie pour pouvoir tricher, parce qu'au bout d'un moment, il n'a plus de batterie, donc il s'arrête. Merci beaucoup Jean. Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique avec le Silicon Carnet. Ce sera Nathalie Doré puis le Cyber Gadget d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous découvrirons notre Silicon Carnet avec Nathalie Doré depuis l'atelier US. On va s'intéresser à Flex, qui est un nouveau service de livraison signé Amazon. Et en fait, c'est les particuliers qui livrent des colis. C'est assez impressionnant. On va en parler dans quelques instants. C'est un peu l'ubérisation de la livraison. Mais auparavant, nous avons Antoine Cyr avec nous pour une petite sélection de gadgetos. Une sélection de gadgetos spéciale 5 sens aujourd'hui,
oui,
Antoine.
De deux objets connectés qui peuvent aider grandement des personnes qui ont un handicap. Pour commencer, un gant pour donner de la voix à ceux qui n'en ont pas.
De la voix ?
De la voix,
d'accord.
Vous allez voir. Mm-hmm. C'est une jeune étudiante londonienne de l'université de Goldsmith qui a eu l'idée de créer donc ce gant qui permet de traduire le langage des signes en un texte écrit. D'accord. Il y a même d'ailleurs la dernière version du gant fait même lire ce texte à une voix artificielle pour obtenir directement une traduction à l'oral. Mm-hmm. C'est un gant connecté qui est équipé d'une panoplie de capteurs qui détectent les mouvements de la main et des doigts qui sont effectués par la personne. Alors cette étudiante maintenant envisage de rajouter des fonctionnalités comme la traduction en français ou en arabe et de connecter le gant au Wi-Fi pour permettre l'affichage du texte de manière instantanée sur les smartphones et les tablettes environnantes. C'est une option qui est une véritable avancée en comparaison des autres gants connectés qui existent et qui pourraient normalement être commercialisés bientôt aux alentours de 350 euros.
Voilà. Eh bien, en plus, vous savez quoi, c'est une invention qui est presque élégante.
Élégante, oui, très jolie.
Voilà. On reste dans les sens.
Oui, avec une...
Enfin, dans les sens, pas celle qu'on met dans les voitures.
Non, dans les sens S-E-N-S.
Oui, on est d'accord.
Avec une canne connectée au service des malvoyants. Donc là, ce sont des Français, cette fois-ci, qui ont développé une canne intelligente. Il en faut. Ayant pour but de rendre la ville plus accessible aux personnes malvoyantes, elle est appelée Andisco et elle permet par exemple d'indiquer si le feu est vert ou non pour traverser la route.
Ah bon, la canne détecte si le
tout
feu
à fait,
est,
tout
est
à
vert
fait.
Ou rouge.
Et elle indique aussi à la personne qui l'utilise quel est le temps d'attente avant le prochain bus et si celle-ci ne souhaite pas patienter, quels sont les itinéraires disponibles pour aller dans son lieu de destination. Évidemment, c'est encore un prototype, mais là aussi, elle devrait être lancé prochainement. Il reste un obstacle majeur du côté des villes qui doivent s'équiper de balises pour permettre la transmission d'informations. Mais bon, on nous parle tout le temps de Smart City, donc ça devrait normalement n'être qu'une question de temps. D'ici là, la start-up parie sur l'open data pour collecter des données dans les différentes régions de France et rendre la canne opérationnelle.
Pas mal. Attendez. Voilà. Franchement, c'est une canne qui peut peut-être révolutionner.
Elle peut révolutionner.
Bouleverser la vie des gens,
simplement
des malvoyants.
En comptant sur l'open data, il faut quand même mieux que les data soient assez complètes.
Oui.
Si on veut que ça marche.
Effectivement.
Voilà.
Et vous savez qu'à Bordeaux, c'est tenu cette semaine, un salon sur les objets, les voitures autonomes. Et il y a évidemment tout un marché pour les personnes malvoyantes qui pourraient emprunter ces véhicules autonomes, qui pourraient les emmener d'un point A à un point B. regarder. Là encore, c'est assez révolutionnaire. Merci beaucoup, Antoine. Et après donc la sélection de gadgets d'Antoine, direction maintenant l'atelier US avec Nathalie Doré qui est toujours avec nous. Nathalie, on va pour ce Silicon Carnet s'intéresser à l'économie à la demande.
Et oui François, et c'est une nouvelle qui est tombée cette semaine qui va alimenter tous les débats actuels sur l'économie à la demande. Alors vous le savez, hein, c'est une nouvelle façon de consommer avec ici un concept qui est je consomme où je veux, quand je veux et ce que je veux. Et des acteurs comme Uber se sont positionnés sur ce créneau-là. Eh bien figurez-vous que là on va parler d'un acteur qui vient pas de cette économie à la demande et qui se lance et qu'offre un nouveau service de livraison assuré par des particuliers. Il s'agit du grand, du géant, il s'agit d'Amazon qui lance donc cette semaine Amazon Flex aux États-Unis.
Alors Nathalie, alors, Flex, oui c'est quoi Flex?
Oui alors Flex bah, c'est tout simplement un nouveau service proposé par Amazon pour permettre aux particuliers de devenir des livreurs. Donc en fait il suffit de posséder un véhicule, le vélo ça ne marche pas, il faut avoir une voiture, et un smartphone tournant sur Android et réussir un petit test préalable et ensuite vous pouvez assurer la livraison de colis pour Amazon. Alors pour l'instant ce service est disponible uniquement à Seattle, vous savez c'est la ville... Oui. Natale de l'entreprise, et le service devrait bientôt être disponible dans une dizaine de villes américaines.
Mais Amazon n'est pas le premier à proposer de la livraison par particulier, non ?
Oui, oui, c'est vrai. Alors, petit dernier en date, et on en avait aussi beaucoup entendu parler, c'est Uber qui a lancé Uber Eats et qui livre à San Francisco de la nourriture. Alors, pourtant, c'est à mon sens un virage fort que prend Amazon, puisque là, il s'agit d'un acteur qui vient pas de la sharing economy, qui vient pas de l'économie à la demande, et se lance avec un type de service assuré par des particuliers, où avant, Amazon utilisait soit ses propres employés, soit des services de professionnels. Alors, il est trop tôt pour prédire si Flex sera un succès. Amazon est d'ailleurs prudent, hein, il se lance à petits pas en couvrant très peu de villes pour l'instant. Mais en tout cas, Amazon met la lumière sur un modèle qui fait débat et on commence même ici à parler d'économie des petits boulots. Puisqu'en fait, l'économie à la demande sonne souvent comme travail à la demande avec tous les sujets de précarité que ça peut engendrer. Alors pourtant aujourd'hui, ce modèle de travail à la demande et de travailleurs indépendants qui acceptent de faire ce type de travail est déjà important. Hein. Les travailleurs indépendants représentent 34% de la population active américaine. Et les études montrent que dans 5 ans, ils devraient passer à 40%. Donc les études montrent que ça va plutôt aller en grossissant. Et il faut pas oublier qu'en fait, ce nombre de travailleurs indépendant est aussi la conséquence de la crise économique de 2008 qui a forcé bon nombre de citoyens à se trouver eux-mêmes un travail.
Mais alors Nathalie, Amazon a-t-il raison de faire un pas vers ce nouveau modèle économique ?
Alors je pense qu'il est trop tôt pour le dire, hein. Ce serait hasardeux d'ailleurs d'apporter une réponse dès maintenant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que certains acteurs prennent le contre-pied pour préserver la qualité de service. Puisqu'en fait, le livreur, c'est quand même la personne qui voit le client. Et on a par exemple le cas de Moncherry, qui est une start-up qui livre chez vous des bons petits plats mijotés par des chefs cuisiniers qui marchent bien ici à San Francisco. Et Moncherry, alors contrairement à Amazon, eux, ils ont décidé d'avoir leur propre livreur. Ce sont des employés de Moncherry. Et ces livreurs sont donc des vrais ambassadeurs de la marque. Et par leur fidélité, puisqu'ils sont souvent en train de livrer dans les mêmes quartiers, ils peuvent instaurer une relation de confiance avec les clients. Donc, voilà, il y a des sujets de coûts. Alors Moncherry a levé beaucoup d'argent, donc pour l'instant ils peuvent s'assurer ce modèle-là. Mais il y a aussi des sujets d'image et de qualité. C'est donc pour moi la morale de l'histoire à ce moment-là. Il faudrait pas que le service flexible rime avec faible qualité de service, donc c'est ce qu'il faudra voir et ce sera une affaire à suivre avec Amazon Flex.
Effectivement, c'est le risque. Merci beaucoup Nathalie. Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier. Focus Startup, enquête de l'atelier, on va parler d'auto-connecté. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, on va parler d'automobiles connectées. On va d'ailleurs vous proposer une saga automobile du futur, hein, puisque la semaine prochaine, on parlera d'automobiles autonomes. Ça aussi, c'est un autre débat, avec un salon qui s'est déroulé à Bordeaux. Mais donc là, dans un instant, voiture connectée. Mais auparavant, avant cette enquête de l'atelier menée par Lila, eh bien, c'est notre focus startup. Et on va s'intéresser à la startup Give Me Dolls, Aurore Géraud.
Nous sommes aujourd'hui avec Akin Hamida de Give Me Dolls. Bonjour.
Bonjour Aurore.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est votre start-up, s'il vous plaît ?
Alors en fait, GiveMiddle, c'est une plateforme de financement participatif avec une particularité majeure. C'est que les porteurs de projets ne vont pas demander d'argent directement, mais ils vont demander du temps. Ils vont générer l'argent grâce à leur activité sur Internet. Alors en regardant des vidéos publicitaires sponsorisées, en effectuant des sondages, en réalisant leurs achats en ligne, et également en recyclant un ancien mobile ou une ancienne tablette hors d'usage. C'est ce que nous appelons le microfunding.
Et ça répond à quelle problématique ? Pourquoi se lancer dans ce principe de micro-tâche ?
Dans un premier temps, l'idée nous est venue parce que, alors moi j'étais quelqu'un qui était très à la recherche et à l'écoute des bons plans sur Internet, et je trouvais toujours des solutions pour rentabiliser mon temps passé sur Internet, et notamment je réussissais à récupérer un petit peu d'argent en remplissant des sondages, en effectuant mes achats en ligne via des sites de cashback, mais également sur des choses un peu plus collaboratives comme location de véhicules entre particuliers, covoiturage, etc. À côté de ça, comme tout le monde, je crois, j'étais sollicité pour des cagnottes, pour des enterrements de vie de garçon ou encore des cadeaux de d'anniversaire. Et je me suis dit, il y a peut-être une possibilité de faire un pont entre les deux. D'un côté, collecter de l'argent sur Internet et de l'autre côté, participer à des projets. GiveMiddle, en fait, offre une réponse aux associations et aux particuliers qui souhaitent financer des projets mais qui n'en ont pas les moyens.
Donc si demain je suis particulier avec un projet ou association, comment fonctionne la plateforme ?
Alors c'est tout simple, il suffit de venir sur givemiddles.com, de s'inscrire. Alors déjà ce qu'on conseille aux porteurs de projets, c'est de visiter un petit peu le site, de soutenir quelques projets pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite il suffit d'aller dans la rubrique déposer un projet, de renseigner le montant qu'on souhaite obtenir et le temps qu'on se donne pour obtenir cet argent et de faire donc une demande de publication du projet avec des visuels, évidemment une description. Et nous, on publie les projets dans les 24 heures.
Donc concrètement, quel est votre business model ? Est-ce que vous allez directement voir les entreprises qui permettent de faire des micro-tâches ?
Alors en fait, notre business model pourrait se résumer par un partage de revenus publicitaires. Nous travaillons avec des annonceurs et des partenaires qui acceptent que l'internaute puisse récupérer une partie de l'argent et l'attribuer à des projets à travers ses actions. Et notre commission est versée par ces partenaires-là en amont de l'action qu'effectue l'internaute. Et ce qui est important de noter, c'est que les cagnottes vont récupérer 100% de l'argent qui est généré. Il n'y a pas de commission qui est prélevée à la fin d'une cagnotte d'un projet sur GiveMiddle.
Est-ce qu'on peut imaginer dans quelques temps un accord avec Amazon Mechanical Turk ou quelque chose dans le genre ?
Alors on peut tout imaginer. Aujourd'hui, GiveMiddle est plus ou moins dans une phase de bêta-test. Le site a été lancé le 2 juin dernier. Et nous observons beaucoup ce qui se passe, le retour des utilisateurs qu'on a régulièrement par mail ou par téléphone. Et on essaye d'améliorer la plateforme. Notamment, dans quelques jours, on va avoir une version mobile qui est parfaitement réfléchie pour vous accompagner et vous permettre de générer de l'argent partout où vous allez. Et une version application qui sera téléchargée. Chargeable sur les App Store d'ici quelques semaines. Donc aujourd'hui, on est vraiment en phase de bêta test où on tente d'améliorer vraiment notre service.
Et c'est quoi la suite des levées de fonds, une internationalisation ?
Alors dans un premier temps, ce qu'on aimerait évidemment, c'est de trouver un partenaire financier qui nous aidera à structurer un petit peu notre activité, également à agrandir l'équipe et peut-être courant 2016, effectivement, tester le modèle de GiveMiddle à l'international.
Merci Akin Hamida, fondateur de GiveMiddle.
Merci à vous, Aurore.
Aurore Giraud, merci. Et place donc à notre enquête de l'atelier. Lila, en compagnie de nos invités, on va parler de la voiture connectée qui, d'année en année, se perfectionne et fait des choses incroyables.
Mais oui, tout à fait. Chacun se fend de sa version de la voiture connectée. Mais on est en droit de se poser la question à quoi elle ressemble vraiment aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit jusqu'où elle est connectée ?
Oui.
Pour en parler, on a le plaisir d'avoir deux messieurs dans le studio.
Spécialistes
du domaine. Guillaume Crunel, bonjour.
Bonjour.
Guillaume, vous êtes associé responsable de l'industrie automobile chez Deloitte. Michael Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et PDG de Drust. Oui. Alors, Michael, vous avez développé un boîtier qui est censé rendre le conducteur en super conducteur. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus avant d'arriver ?
Ça pourrait m'intéresser parce que parfois je suis pas super conducteur moi.
Qu'est-ce que j'aurais ça veut dire d'avoir être un super conducteur ?
C'est une belle promesse déjà.
Oui, ça c'est bien, c'est bien.
Effectivement, au-delà du boîtier, on a développé une plateforme qui permet de connecter en premier lieu le conducteur avec sa voiture via ce petit boîtier et via son smartphone. Et concrètement, l'application va lui apporter des services autour de son rapport avec sa voiture, sa façon de conduire, le challenger et lui permettre de s'améliorer pour faire des économies concrètement. Hein, on promet 250 euros d'économie par an. Et puis au-delà de ça, de lui permettre de mieux vivre le rapport à sa voiture par rapport à la maintenance, avoir des alertes sur quand il est nécessaire de faire des opérations et le connecter au reste de l'écosystème, le réparateur, l'assureur, etc. etc.
D'accord.
Alors concrètement, ça marche comment ? C'est un boîtier que je connecte où ?
C'est un boîtier qui se connecte sur la prise dite diagnostique des véhicules commercialisés en Europe depuis 2001. Donc 85% du parc aujourd'hui en Europe est compatible.
Mais plus la voiture est récente, plus on a de chance d'avoir cette prise en fait.
Tout à fait. C'est ça. Maintenant, c'est les voitures qui ont jusqu'à 15 ans, donc finalement on a une compatibilité qui est forte.
Donc on le branche, c'est tout. On n'a rien à faire d'autre.
On le branche et ensuite tout va se passer sur le smartphone qui va se connecter en Bluetooth au boîtier pour récupérer les données et puis vous embarquer dans l'expérience Be a Super Driver.
D'accord. Chouette.
Alors Guillaume Crunel, vous observez depuis des années l'évolution de ce marché de la voiture connectée. Aujourd'hui, à quoi elle ressemble cette voiture ? À quel point elle est connectée ? Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de simples services connectés ? Ou est-ce qu'on peut, comme ce que propose Drust, aller un cran plus loin ?
La voiture connectée, elle ressemble à votre voiture puisque c'est celle que vous avez avec vous tous les jours. Une voiture connectée, bientôt, ça va devenir totalement synonyme d'une voiture. Voilà, toutes les voitures vont être connectées de manière assez simple. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans votre véhicule avec votre smartphone, vous êtes déjà dans un véhicule connecté, tout simplement, parce que quand vous dépassez 30, 40, 50 km/h, on doute bien que vous n'êtes pas en train de courir. Une fois qu'on a dit ça, c'est tout un écosystème de connectivité.
Alors on court vite.
C'est probablement votre cas, j'ai pas cette chance.
C'est vrai.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la voiture, elle est connectée. Alors, on pense tout de suite connectée à Internet. Mais c'est pas que ça. C'est connectée à son environnement, être capable d'utiliser des informations qui viennent d'autres véhicules, des infrastructures, peut-être des piétons, d'utiliser toute cette information, des informations venant du véhicule. On parlait tout à l'heure des données d'usure du véhicule, maintenance prédictive, et d'en donner un service qui a de l'utilité, soit parce que ça rend la conduite plus facile, soit parce que ça permet de faire des économies. C'est ça le sens du véhicule connecté aujourd'hui, et c'est le cas de beaucoup de nos véhicules.
Elle est là aujourd'hui cette voiture connectée. On peut l'acheter, on peut.
Oui, et alors justement pour compléter la question Lila, c'est qu'on a l'impression que tout ça c'est un peu c'est du rêve, c'est du fantasme, etc. Mais quand je vais chez mon concessionnaire et que j'achète ma petite voiture à 10 000 euros, est-ce que malgré tout j'ai quand même quelques briques de voiture connectée ou est-ce qu'il faut que je mette 30, 40, 50 000 euros dans un véhicule ?
Alors je pense que l'année 2015 c'est un gros changement à ce niveau-là. Ce qu'on a vu au salon de Francfort est assez intéressant. C'est un phénomène de démocratisation fort, de descente de beaucoup de technologies qu'on connaissait historiquement dans le premium, dans le haut de gamme, vers des véhicules de moyenne gamme, voire même d'entrée de gamme. On a d'ailleurs élu parmi les véhicules connectés de l'année en collaboration avec BFM 01net.
Oui. La voiture la plus connectée de l'année, voilà. Hein, vous avez élu trois
voitures. Alors, il y avait évidemment cette BMW série 7 qui est la panacée des technologies embarquées aujourd'hui.
Oui. Qui est un petit peu cher.
Après ça, il y a un autre véhicule, une Audi A4, un véhicule qui demeure encore abordable. Et puis, un véhicule compact. La nouvelle Mégane de chez Renault, qui là embarque un certain nombre de technologies qui démocratisent très clairement une bonne partie de ce qu'était la connectivité haut de gamme il y a quelques années.
Donc ce n'est plus réservé, c'est pour conclure en fait.
Ça se démocratise.
Ça se démocratise. C'est un peu comme les airbags ou l'ABS il y a quelques années. C'était au départ réservé à des véhicules très haut de gamme, mais aujourd'hui on peut pas envisager acheter une voiture même d'entrée de gamme sans lève-glace électrique et sans ABS quoi.
Absolument, on est exactement sur ces FN-là.
Et pour compléter, effectivement, on retrouve de plus en plus de véhicules que je dirais connectés en natif, c'est-à-dire directement chez votre concessionnaire. Et au-delà de ça, si votre véhicule, comme vous le disiez François, à 10 000 euros, n'a pas encore ces options-là, il est possible avec des solutions dites aftermarket,
comme
Drust et effectivement comme d'autres, de pouvoir équiper n'importe quel véhicule, comme on le disait tout à l'heure, depuis 2001. Et leur apporter ces services-là à bord sans aller chercher les...
Parce que cette prise dont vous nous parliez, elle est existante même sur des véhicules d'entrée de gamme.
Oui, c'est tout ça. À fait. Elle est imposée par
la Commission européenne. Je prends une Dacia à 8000 euros, j'ai une prise comme ça.
Et c'est la même prise dans une Ferrari à 150 000 euros.
D'accord.
Et est-ce que la bataille de la voiture connectée est terminée? Est-ce qu'elle est en train de se jouer? Je pense notamment à la bataille des données. Michael, vous m'expliquiez en préparant l'émission que vous aviez été approché par plusieurs assureurs.
On peut se demander pourquoi. effectivement, Guillaume le disait, la voiture connectée, c'est un vrai boom dans tout l'écosystème automobile. Et donc, dans l'écosystème, il y a l'assureur, il y a le réparateur, il y a le constructeur, il y a l'équipementier. On voit pointer les géants de la tech, Samsung, Google, Apple, etc. On a été approché par un certain nombre de ces grands acteurs. Mm. Ce qu'on voit se tramer, la bataille du véhicule connecté, elle en est, je pense, qu'à ses prémices.
Qu'à ses débuts.
Concrètement, aller dans la rue et essayer de trouver une voiture connectée, il n'y en a pas beaucoup. Ça reste encore relativement marginal. En revanche, on va assister à une bataille sur qui va préempter le standard de demain sur les véhicules connectés en natif et quelle va être la place de fournisseurs de services comme Drust dans cet écosystème-là, quelle va être la place du constructeur, quelle va être la place de l'assureur. Et il est assez passionnant de voir comment tout ça évolue et va évoluer dans les 5 prochaines années.
Guillaume Crunel, vous partagez cette position?
Je partage totalement ce constat. Ce qui se passe de manière assez concrète, c'est qu'on est en train de redéfinir des business models, des chaînes de valeur. Il y a des nouveaux services qui se créent, l'utilisation de la donnée. Mm. Comment je me déplace? Est-ce que je fais tout en voiture? Est-ce que je le fais différemment? Est-ce que je le fais avec mon véhicule? Est-ce que je le partage? Tout ça, c'est une nouvelle manière de vivre sa mobilité avec des entrants, comme Drust, par exemple, et puis d'autres aussi, les géants de la tech qui arrivent. Tout ça, c'est un nouveau gâteau dont on définit les parts. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant et qui va définir un peu l'économie de la voiture de demain.
Alors j'ai une petite question concernant le véhicule électrique. Alors c'est encore un marché marginal, mais on a l'impression que les véhicules électriques sont obligés d'être connectés, enfin pour la plupart le sont, et sont peut-être même en avance sur les véhicules thermiques, on va dire à essence. Est-ce que ça peut être pas aussi un boost en fait de l'arrivée des équipements, de produits connectés dans les véhicules électriques?
Moi, je pense que sur le fond, ça a été en avance tout simplement pour des raisons d'autonomie. Comme on avait une autonomie qui était plutôt contrainte et qu'il fallait rassurer, il fallait des systèmes informatiques qui permettent de dire à chaque moment qu'on était capable d'aller se recharger facilement avec une borne pas trop loin. Donc c'est l'usage, encore une fois, là, qui préempte et qui fait que la technologie est mise au service. Donc oui, ça contribue d'un ensemble qui fait que les véhicules sont de plus en plus connectés.
Alors, avec toutes ces données, est-ce qu'on pourrait imaginer demain être récompensé pour notre conduite responsable, Michael?
Effectivement, on voit pointer de plus en plus de modèles comme ça, dits d'assurance basés sur l'usage et sur le comportement. Nos amis anglo-saxons sont d'ailleurs plutôt en avance sur nous sur ces sujets-là, où il y a pas mal d'applicatifs qui sont déjà dans la rue, au UK, aux US, etc. En France, ce que l'on peut dire, c'est que l'écosystème se pose la question, les assureurs se posent la question, on en parle de plus en plus. Il y a un aspect culturel, je pense, qui est important, qu'il faut pas oublier par rapport à l'implication du conducteur. C'est pour ça que chez Drust, nous, on travaille beaucoup la promesse conducteur, puisque si on entend à un moment donné faire un usage des données, on met un point d'honneur à ce que ça apporte de la valeur au conducteur. Donc si un jour il y a une exploitation qui est faite pour qualifier le comportement de conduite, on souhaite que par exemple ça puisse permettre d'apporter des services supplémentaires au conducteur, de lui permettre de faire des économies sur son assurance, sur l'assistance, etc. etc.
Ouais. Bon, après ça peut peut-être aussi être un peu dangereux, le fait qu'on soit monitoré comme ça tout le temps par son assurance. On en parle aussi avec les objets connectés qui pourraient être là, remonter des informations si on court pas assez, si on marche pas assez, si on fait pas nos 10 000 pas par jour. Ça peut être effrayant aussi.
Ça peut être effrayant, et c'est bien pour ça que je disais qu'il faut pas oublier le conducteur, il faut pas oublier le particulier dans l'affaire, parce que ça peut être assez excitant finalement pour ces acteurs-là de dire je vais avoir plein de données et je vais pouvoir en faire plein de choses. Mais
mais vraiment dans l'équation, il faut pas oublier le particulier, le consommateur, parce que il faut bien comprendre quelque chose dans le cadre de la voiture connectée, les données sont les siennes. Mmh. Donc il sera à même de les partager mmh. si on a une belle promesse à lui offrir. Effectivement, si c'est pour lui taper sur les doigts quand il fait mal, il sera probablement pas enclin à vous les partager.
Ouais, là tout s'effondre, ça a
et
plus
tout
de sens.
S'effondre. Voilà. Tout à fait.
Messieurs, merci beaucoup. Voilà, merci. Ça c'est le premier volet, Lila, hein, de cette voiture connectée.
Tout à fait.
Et la semaine prochaine, on va parler de voiture autonome.
Autonome, voilà. Tout à fait.
Bon, ça vous fait sourire.
Messieurs, merci.
Ce sujet. Non mais je la comprends, parce que imaginez Lila dans 5 ans, 10 ans, à bord d'une voiture qui se conduit toute seule, franchement,
mais
ça c'est la
classe.
Je n'ai
même pas le permis, François.
Ah ben alors c'est pour ça que vous souriez.
Mieux.
Mais voilà, ça va vous changer la vie, Lila. Bon, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas songer à le passer quand même, parce que c'est pas pour tout de suite. Bon allez, la suite de l'atelier numérique dans un instant sur BFM Business, à tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant sur BFM Business, nous allons parler lecture et numérique. La réponse est-elle dans la communauté ? On verra ça avec Lila et nos invités. Mais auparavant, notre web stratégie. On s'intéresse à la stratégie digitale de Malakoff Médéric avec vous, Lila Megrawa, et votre invité.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Oui, François. Alors, cette semaine, on est quand même dans un cadre assez privilégié avec mon invité. On est tout simplement au congrès national du RFID qui s'est tenu à Marseille cette semaine. Alors, pour cette web stratégie, on va faire un focus sur les objets connectés de santé. On va en profiter pour aborder la stratégie digitale du groupe Malakoff Médéric. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hicham Badreddin. Bonjour.
Bonjour.
Hicham, vous êtes directeur digital du groupe Malakoff Médéric, qui est un des grands groupes de protection sociale à la fois à destination du particulier et du salarié. Alors racontez-nous un peu, de manière un peu générale, quand et comment Malakoff Médéric a pris le virage du numérique.
Dès 2009, on a commencé à travailler sur une offre de services numériques. Une offre qui répond aux besoins de nos clients pour les accompagner et leur apporter des réponses les plus adaptées sur ce canal. Alors que ça soit la relation client, que ça soit la vente, ou que ça soit les services de prévention, dans le cadre de nos stratégies entreprise territoire de santé.
Donc ça veut dire que très tôt, dès 2009, vous avez commencé à développer des services également.
Tout à fait. Alors, on a suivi l'évolution des usages, ce qui était important parce qu'on a vu qu'il y avait un vrai besoin d'apporter des réponses à nos clients sur ce canal. Alors, en 2009, on avait déjà commencé par des dispositifs de relations clients, que ce soit au service des entreprises ou au service des salariés, pour leur apporter les différentes réponses sur la gestion de leur contrat. Ensuite, très vite, on a porté une attention à nos services de prévention qu'on a déployés sur le canal digital pour pouvoir être présent à tout moment auprès de ses clients dans ces dispositifs de prévention, en s'appuyant effectivement sur les différents usages, que ce soit la mobilité, que ce soit les réseaux sociaux, ou que ce soit des services directement sur le laptop.
Pour se représenter concrètement, prenons par exemple l'exemple du mobile. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quel type d'application?
Alors en 2010, on avait déjà tout notre espace client vers les salariés ou les individus qui étaient présents sur le mobile. C'est-à-dire que tout client Malakoff Médéric pouvait faire une demande directement sur son mobile, pouvait géolocaliser par exemple nos réseaux de partenaires, notamment si on a besoin d'aller chez un opticien partenaire de Malakoff Médéric, on pouvait utiliser le mobile. On pouvait recevoir aussi des push de notification qui nous informent sur un remboursement qui a été effectué par Malakoff Médéric. Ce qui fait, on avait vraiment une stratégie d'être au plus proche de nos clients, et on sait qu'un mobile, c'est toujours dans la poche, et là on est toujours au service de nos clients, même effectivement sur ce média.
Donc ça veut dire que le salarié en entreprise va pouvoir avoir accès à ces informations médicales de remboursement en direct sur ces applications.
Tout à fait. Dès qu'il y a un remboursement effectué par Malakoff Médéric, on va recevoir un push de notification sur son smartphone, si on a l'application Malakoff Médéric installée sur le mobile. Effectivement, on peut aller consulter sur le mobile ce remboursement, le détail de ce remboursement, mais on n'a pas que ça. On peut, par exemple, si on est chez un professionnel de santé, simuler le remboursement futur que Malakoff Médéric va vous apporter, ainsi que la part de la Sécurité sociale. Mais aussi, on va retrouver sa carte tiers payant. la carte Tiers-Payant qu'aujourd'hui on a dans son portefeuille, ben on va la retrouver directement sur le mobile qui est disponible pour qu'elle puisse être présentée à un professionnel de santé.
Qu'en est-il de l'adoption ? Qu'est-ce que vous observez ? Est-ce que les salariés, est-ce qu'il y a une appétence vis-à-vis de ces applications mobiles ? Ou est-ce que ça prend pas un peu de temps pour que ça arrive dans les usages ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il faut vraiment accompagner aussi les clients quand on met en place ces nouvelles applications et qu'on utilise ces nouveaux supports. Aujourd'hui, effectivement, la mobilité, nous, on a démarré dès 2010. Ça a pris du temps, effectivement, au début, pour que ça soit adopté. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est plus de 20% de nos utilisateurs passent par le mobile pour consommer leur relation avec nous. Et on voit vraiment une évolution de l'usage sur ce type de support. Il y a aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, depuis 2011, on a mis une équipe interne Malakoff Médéric pour répondre aux différentes questions que les personnes peuvent se poser sur leur retraite future. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie appétence pour ces nouveaux supports et que les gens, effectivement, les adoptent très rapidement, surtout qu'on est vraiment dans une relation proactive grâce à ces supports. Quand on utilise le push, quand on est sur les réseaux sociaux, on est vraiment dans des relations qui sont proactives et que ça plaît effectivement à nos clients.
Alors parlons objet connecté de santé. Vous êtes intervenu au cours du congrès de la RFID à Marseille cette semaine. Alors racontez-nous un peu quelle a été votre stratégie, quelle est votre stratégie concernant ces objets connectés de santé.
Alors nous, notre stratégie, c'est vraiment une stratégie qui est plutôt au profit de nos clients pour les accompagner. Pour les entreprises, c'est pour qu'ils soient des entreprises productives. Et pour qu'on puisse effectivement les aider, il faut qu'on puisse diminuer l'absentéisme chez les entreprises. Diminuer l'absentéisme, c'est aussi prendre soin des salariés, déployer des services de prévention. Les objets connectés vont jouer un rôle important pour personnaliser ces dispositifs grâce à toute l'information qui sera captée, bien sûr anonymisée parce qu'on va pas utiliser de l'information personnelle. Et c'est là où les objets connectés vont être un accélérateur dans l'adoption et la propagation de ces services de prévention. Voilà, nous, notre stratégie. Alors, notre stratégie, c'est une stratégie de prévention. Les objets connectés, c'est un moyen pour accélérer et pour rendre ces stratégies efficaces. C'est pour ça qu'on s'intéresse effectivement à ces objets connectés et qu'on a lancé effectivement en 2011 une expérimentation dans le cadre d'un appel à projet sur la base de tensiomètres connectés, balances connectées, pilules connectées, pour prouver effectivement l'efficacité de ces dispositifs dans notre stratégie de prévention qui est Entreprise Territoire de Santé.
Quels ont été les résultats de cette expérimentation menée en 2011, quatre ans après ?
Alors, suite à 2 ans, effectivement, d'expérimentation, et grâce, effectivement, à l'efficacité de cette expérimentation, parce que les résultats étaient très positifs, on a lancé en mai dernier notre plateforme Entreprise Territoire de Santé, notre stratégie Entreprise Territoire de Santé, pour industrialiser cette démarche. Et là, on est en train de la déployer depuis mai vers nos entreprises clientes. Et effectivement, on est toujours dans un mode test and learn, c'est-à-dire on apprend avec nos clients, on apprend à personnaliser, à rendre nos services efficaces pour leur performance.
Là où je me dis où ça peut bloquer, comment convaincre le salarié de se doter d'objets connectés de santé pour son bien ?
Alors, c'est en leur prouvant effectivement l'efficacité de ces dispositifs. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où on voit que le bénéfice dépasse le risque, les salariés vont adopter ces dispositifs et vont utiliser des objets connectés s'ils le souhaitent. Nous, aujourd'hui, on fournit pas les objets connectés, on fournit des plateformes d'accompagnement qui peuvent consommer des objets connectés. Ce qui fait effectivement, c'est avec le temps et en prouvant le bien de ces outils aujourd'hui à ces salariés, en donnant effectivement des résultats positifs pour que ces salariés puissent voir que utiliser des services de prévention, utiliser des objets connectés pour rendre ces services efficaces, c'est pour leur bien-être et pour leur capital santé.
Hicham Badreddine, merci. Je rappelle, vous êtes CDO, directeur digital pour parler français du groupe Malakoff Médéric. Merci.
Merci Lila. Et on revient dans un instant avec notre passion selon Sanette. On va parler de lecture numérique. À tout de suite sur BFM Business dans cet atelier.